Axel, à la une aujourd'hui, eh bien, vous nous proposez de secouer des essaims d'abeilles. C'est une bonne idée pour se faire piquer, finalement, non?
Ah, on va rien faire nous-mêmes, on va laisser faire les physiciens à l'université d'Harvard. Je peux vous assurer, Mathieu, ils ont fait ça gentiment, on a les vidéos.
Ouais, et pourquoi faire d'ailleurs, Axel? C'est ça la vraie question.
En fait, un essaim d'abeille, quand il s'accroche à une branche ou qu'il s'accroche sur le rebord d'un toit, il prend la forme d'une grosse grappe avec des milliers d'insectes dedans et l'ensemble se comporte comme un fluide visqueux, d'où l'intérêt pour les physiciens. Et c'est pour savoir comment chaque abeille dans la masse adapte son comportement que ces chercheurs ont décidé de les secouer un tout petit peu. Pour discuter des résultats publiés dans la revue Nature Physics, nous sommes au téléphone avec l'éthologue Aurore Averguez-Weber. Bonjour.
Bonjour.
Vous travaillez pour le CNRS presque exclusivement avec des abeilles au centre de la recherche pour la cognition animale à Toulouse. Alors avant de voir ce qui se passe quand on les secoue, commençons au calme on va dire. Pourquoi est-ce que les abeilles choisissent parfois de se mettre en boule comme ça?
Alors c'est ce qu'on appelle l'essaimage, donc la fabrication d'essaims. Ça se passe surtout au printemps, début de l'été pour laisser à l'essaim suffisamment de temps pour reconstruire une nouvelle colonie. Et ça se passe pour deux raisons principales, soit parce qu'il y a surpopulation dans la ruche. Et donc, dans ce cas-là, la reine qui est établie va partir avec une partie des ouvrières pour aller faire une nouvelle ruche plus loin et donc laisse la ruche à une nouvelle reine qui va donc prendre le contrôle de la ruche. Et donc, et ce, quand il y a un problème de surpopulation. Et sinon, l'autre cas, c'est quand la reine est malade ou vieillissante ou qu'elle ne peut plus pondre. Dans ce cas-là, là aussi, elle est, entre guillemets, poussée à partir. Et elle part en général donc avec toute une cohorte d'ouvrières pour essayer, donc elle est rejetée par la ruche et il y a quand même une certaine partie d'ouvrières qui la suit. Et donc là aussi il y a essaimage dans ce cas-là. Et donc l'essaim va passer maximum 3 jours à essayer de trouver un nouvel endroit pour s'établir. Donc dans ces moments de repos, il se met sous forme de grappe comme ça effectivement.
Mais l'idée dans cette forme c'est quoi? C'est de faire bloc autour de la reine pour la protéger, c'est quoi?
Effectivement, il est très important qu'elles restent toutes ensemble déjà pour ne pas se perdre. Puisque il faut qu'elle garde la cohésion pour après pouvoir construire une nouvelle colonie tout ensemble, puisqu'une abeille qui vit seule ne peut pas survivre, elle a vraiment besoin de la société pour survivre. Et en même temps, effectivement, ça permet de garder l'humidité, la chaleur et de protéger effectivement la reine au milieu de cette grappe.
Alors ici, dans ces travaux, les chercheurs ont accroché des essaims à des morceaux de bois, et puis ensuite ils les ont secoués tout doucement avec un moteur pour mimer, comme ils disent, les effets du vent dans les branches. Comment réagissent les abeilles dans ces cas-là alors?
Eh ben du coup, ça c'est intéressant cette modélisation, parce que moi je n'avais jamais vu une étude exactement montrer de façon très précise les mouvements. Et ce que l'on constate, c'est que les abeilles, lorsqu'elles sont donc secouées latéralement, elles vont avoir tendance le grappe, comme vous dites, va s'étaler le long de la branche de bois, donc elle offre moins de surface à l'oscillation. Et effectivement, c'est beaucoup plus stable. Donc ils constatent ça. Et ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'après, ils essayent de comprendre comment ça se met en place. Parce que là, on voit vraiment un comportement qui a l'air intelligent, réfléchi. Ok, j'ai cette pression, donc pour compenser, je vais m'étaler, ce qui est plus stable. Mais en fait, chaque abeille n'a pas l'information globale de la forme de l'essaim. Et donc après, ils ont pu montrer à la fois par de l'observation du comportement de chaque abeille et par une modélisation pour montrer que effectivement ça marche comme ça, que chaque abeille, donc elle a la juste connaissance de est-ce que ça lui tire les pattes dans un sens ou dans l'autre lorsqu'elle est sur la grappe, et que l'abeille en fait va aller du côté où il y a le plus de pression, où ça a le plus de tension plutôt, l'endroit où ça tire le plus pour renforcer l'édifice, pour éviter que ça craque. Et juste par faire ça, chaque individu faisant ça, et ben ça entraîne un étalement de la structure, ce qui est beaucoup plus efficace pour résister du coup aux oscillations.
Donc ça veut dire qu'en cas d'urgence, chaque individu donne un peu plus d'énergie pour assurer la survie du groupe. On ne voit pas ça chez toutes les espèces quand même.
Non, c'est vrai que cette idée qu'on appelle en biologie un comportement altruiste, c'est-à-dire pas quelque chose qui a un intérêt pour soi, qui est plutôt coûteux pour soi, mais qui a un intérêt pour les autres ou pour la société dans son ensemble. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les insectes sociaux. Donc, c'est une des caractéristiques que, justement, toutes les ouvrières, que ce soit chez les fourmis, chez les guêpes, chez les abeilles, vont déjà se sacrifier en termes de reproduction, puisqu'elles ne se reproduisent pas elles-mêmes. Il n'y a que la reine qui se reproduit, mais aussi vont faire le travail et parfois se mettre en danger, ou dans ce cas-là, prendre un peu plus de tension, un peu plus de poids, pour le bien de la colonie. Et c'est vrai que c'est quelque chose de spécifique que l'on pense lié justement à leur génétique.
Alors génétique, qu'est-ce que ça veut dire?
Alors ça veut dire que donc les abeilles, tout comme nous, donc elles ont un certain nombre de chromosomes qui leur viennent de leur père et de leur mère. Or, ce qui est intéressant chez ces espèces-là, c'est que les mâles, en fait, n'ont pas de père. Ils n'ont que la moitié du patrimoine génétique de leur mère. Leur mère, en fait, n'utilise pas de spermatozoïdes pour créer des mâles. Et de ce fait-là, ça entraîne que les ouvrières, elles sont plus proches des autres ouvrières qui sont leurs sœurs génétiquement. Donc, elles ont plus de chromosomes en commun avec leurs sœurs et leurs frères qu'avec leurs propres enfants si elles en faisaient elles-mêmes. Et de ce fait, d'un point de vue de l'évolution, puisque la sélection naturelle agit au niveau des gènes, du point de vue de l'évolution, c'est beaucoup plus intéressant pour elles, pour reproduire le plus grande part de leur patrimoine génétique, de protéger leurs sœurs et leurs frères, et de se mettre la reine, qui va donc produire plus de frères et de sœurs, que de se reproduire elles-mêmes. Et donc, ça entraîne ce comportement altruiste où elles ne se reproduisent pas et elles aident l'ensemble de la colonie et la reine en particulier pour la sauvegarde de leur patrimoine génétique.
Aurora Vargas-Weber, quand on voit dans la nature donc ces grappes d'abeilles sous forme d'essaim, est-ce qu'elles sont vulnérables dans cette situation particulière avant de retrouver un lieu propice ou pas?
Oui, c'est effectivement très impressionnant les essaims, à la fois à la voir sur grappe et à la fois on les voit passer un flux d'abeilles, c'est très impressionnant et pas dangereux parce que dans ce cas-là, voilà, elles sont pas du tout agressives, elles recherchent un endroit. Mais elles-mêmes sont vulnérables bien sûr parce qu'elles ne sont pas protégées, elles sont face aux intempéries. Donc bon, en belle saison, c'est peut-être pas un grand problème, même s'il y a un problème de sécheresse. Mais surtout, elles ne peuvent pas faire de réserve et elles ne peuvent pas élever de jeunes dans ces conditions. Elles ont besoin de former, vous savez, là, ces petites cellules en hexagone pour stocker le miel ou pour faire des jeunes. Et donc, elles ne vivent que sur leurs réserves qu'elles ont pris avant de partir. Donc, elles se sont gorgées de miel avant de partir pour pouvoir faire ce voyage. Mais ça peut durer que, voilà, 2-3 jours maximum. Et après, elles vont commencer à mourir de faim, malheureusement.
Très rapidement, pour terminer, quand on voit ces essaims dans la nature, est-ce que c'est dangereux? Est-ce que, comme dans les dessins animés, on peut se faire attaquer par toutes les abeilles en même temps?
Non, c'est très impressionnant, ça fait peur, mais elles ne sont pas dangereuses, elles ne vont pas attaquer, puisqu'elles ne sont pas en défense de la ruche, elles sont vraiment en train de chercher un endroit. Par contre, il faut bien sûr faire attention de ne pas les écraser ou par ce genre de mouvement, donc autant se mettre à l'écart, puisque bien sûr, si on les écrase ou elles se sentent attaquées, elles vont répondre, mais vraiment, elles sont beaucoup moins dangereuses que si on s'approche d'une ruche, où là, les gardiennes vont protéger la ruche, vont protéger leur environnement.
Merci Aurore Vargas-Weber, vous qui travaillez
avec
donc
plaisir
au Centre de Recherche sur la Cognition Animale de Toulouse, au CNRS. Merci beaucoup pour ces explications passionnantes. À demain Axel.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, les premières images de l'astéroïde Ryugu sont arrivées. Les deux micro-robots de l'agence spatiale japonaise se sont posés samedi dans la soirée à plus de 280 millions de kilomètres de la Terre sur un astéroïde de seulement 400 mètres de diamètre. Vous confirmez, Philippe Narajos, c'est Rikiki. Cette mission lancée en 2010 est une première pour le Japon et une réussite technique incontestée. Le contact a rapidement été confirmé avec les deux petits rovers et ils ont donc commencé déjà à explorer. Peut-être enfin un traitement pour les apnées du sommeil. Une équipe de Boston a décidé d'associer deux médicaments déjà sur le marché aux États-Unis lors d'un test mené sur 20 patients sévèrement atteints. Les résultats sont très encourageants d'un point de vue de la respiration et quelques effets secondaires sur la qualité du sommeil tout de même. Environ 13% des hommes américains et 6% des femmes entre 30 à 70 ans souffrent de ce problème d'apnée et la recherche de traitement stagne hélas depuis plusieurs années. Et puis pour terminer, des pieuvres sous extasie, 8 tentacules, 3 cœurs et un sang bleu. Certes, et pourtant, ces animaux extrêmement intelligents partagent une similitude avec l'espèce humaine, l'extasie qui les rend très sociables et amicales. Une étude parue dans la revue Current Biology montre que lorsque plusieurs pieuvres normalement solitaires sont plongées dans un bain contenant de faibles quantités de MDMA, appelée aussi la drogue du bonheur, eh bien elles se rapprochent et s'intéressent beaucoup plus aux autres. Une expérience évidemment à ne pas reproduire dans vos aquariums.